Ma rencontre spirituelle aujourd'hui sera question du vénérable Thomas de la Vierge, un trinitaire qui nous rappelle la vie de Marthe Robin, que nous avons connue, n'est-ce pas, qui est morte en 1980. C'est une des grandes chrétiennes de ce siècle. Par la souffrance endurée dans la sérénité et les phénomènes étonnants qui ont entouré sa vie. Il en va de même de Thomas de la Vierge. Il n'a pas été stigmatisé comme le Padre Pio, mais il a eu une réputation mondiale, pour ainsi dire, comme Padre Pio, à son époque, au XVIIe siècle. Il est mort en 1647 à Madrid, où il a vécu 34 ans, couché sur son grabat, d'où il ne pouvait se lever que très rarement. Et il a été malade en tout durant 40 ans. Il a été visité par les plus grands dignitaires de l'époque, pape, ou du moins futur pape, et le roi, la reine, les dignitaires, et les gens simples, et les gens de toutes sortes, et les foules. C'est toujours ce phénomène chrétien étrange, et qui nous laisse un peu dans des mystères. Le mystère de la souffrance. Le frère Thomas de la Vierge, prêtre, trinitaire. Sa vie a été publiée en 97 sous forme de brochure. Elle m'a été remise par le père Michaud, trinitaire, qui a longtemps été à la maison du père, ici à Montréal, pour s'occuper des malheureux pris par l'itinérance. D'ailleurs, on trouve des trinitaires, comme vous le savez, à Granby. Ils ont un grand monastère. On les retrouve aussi sur la rive sud. Ils ont une paroisse à Montréal aussi. C'est là que le père Michaud est curé maintenant. Le vénérable Thomas de la Vierge appartenait à une famille assez particulière, car quand il est venu au monde, on peut dire, en 1587, du sang de saint coulait dans ses veines. Il est né au mois de janvier. Son père était le frère aîné du fameux saint Thomas de Villeneuve, archevêque et père des pauvres. Faudrait bien que je vous en parle un jour. C'est une vie magnifique d'archevêque. Père des pauvres. Dans cette famille, il y avait trois filles et trois garçons. Les trois filles seront dominicaines. Les trois fils prêtres. L'aîné des garçons, qui s'appelle Jean Thomas, est devenu un prêtre exemplaire. On l'appelait le saint. Après sa mort, d'ailleurs, son corps ne s'est pas corrompu avant plusieurs années. Le troisième des fils, le plus jeune, s'appelait Louis. Il est devenu trinitaire, tout comme Rodrigue, qui est le sujet de notre émission aujourd'hui, qui va devenir le frère Thomas de la Vierge. Il est entré chez les trinitaires, lui aussi, donc, et il sera vénérable un jour. On se demande comment il se fait qu'il n'a pas été béatifié. Vous allez voir par sa vie merveilleuse, fascinante. Le 29 avril 1606, à 19 ans, dans l'église trinitaire de Villanueva de Los Infantes, monsieur et madame, donc Jean-Thomas et Maria, donnent leur fils Rodrigue au Seigneur. Rodrigue fait ses adieux à ses parents, il dit à ses sœurs de ne pas pleurer, il embrasse ses frères, il salue ses parents, ses amis et tout le monde pour toujours. Mais désormais, comme je vous ai dit, il va s'appeler Thomas de la Vierge. C'est un autre homme. Il prétend devenir comme son oncle Thomas de Villeneuve. Et pour ne pas oublier son modèle, n'est-ce pas, il choisit le même nom. Le lendemain, à l'aube du 30 avril, le père Thomas, par obéissance, ou le frère Thomas, si vous voulez, par obéissance, prend la route de Madrid. Il va la déchausser, comme allaient les trinitaires à l'époque, vêtu d'un habit grossier de laine blanche, à même la peau. Il mange ce qu'il mendie, il dort un peu partout. On pratiquait vraiment la pauvreté. Et l'arrivée de Thomas cause une grande allégresse au noviciat des Trinitaires à Madrid. Dès le premier jour, il lui faut peu de temps pour apprendre les règles de la vie trinitaire. D'ailleurs, il note que les frères trinitaires sont fidèles dans l'accomplissement de leurs devoirs, et cependant, il remarque que chacun développe, selon son tempérament, une vertu particulière. L'un, c'est plutôt l'humilité, l'autre plutôt la charité, un troisième plutôt la raison, puis encore un autre la présence à Dieu, etc. Et alors, il se trace un programme. Il décide d'imiter les vertus de chacun des frères. Il veut toutes les imiter. Et on dit que toutes ces vertus, bien, il les a dépassées. Celui qui écrit sa vie dit bien, ce ne sont pas des phrases toutes faites. On fait son éloge parce que c'est vrai. Et cet écrivain dit, je ne crée pas un héros. C'est l'histoire authentique d'un héros. Il fait sa profession dans l'ordre trinitaire le 1er mai 1607, après peu de temps de vie religieuse. Le mois suivant, il part pour Cordoue. Quand on le voit arriver à Cordoue, où les musulmans étaient très nombreux, ont laissé d'ailleurs des traces d'architecture absolument magnifiques, il est affamé, il est épuisé, c'est une loque. Hein. Il mange à peine pour donner ses aliments aux pauvres le long de son voyage. Il assiste continuellement, d'ailleurs, les religieux malades quand il arrive là-bas à Cordoue. Son oraison est constante, on remarque ça. Il est complètement âme, et l'âme de Thomas de la Vierge est totalement possédée par Dieu. Son offrande est continue. Car nous sommes des êtres offerts. Hein? Être chrétien, c'est s'offrir à Dieu. Les phénomènes mystiques sont inexplicables. Alors que tous les frères sont en oraison, mettons, devant le tabernacle, le frère Thomas de la Vierge sent Dieu dans son âme, plus présent, à chaque moment, plus actif, plus absorbant. L'intensité augmente de plus en plus, alors il lui faut crier, cependant, il veut passer inaperçu. Alors sans cri, sans voix, il se contracte, il ne veut pas crier. Il se réprime de toutes ses forces, et rapidement, sa bouche et ses narines deviennent trois sources de sang. Alors, tous les médecins qui l'ont traité durant sa vie émettent tous le même diagnostic. Il a 5 veines éclatées dans la poitrine. Est-ce la tuberculose? Sans doute, mais avec un caractère inexplicable. Le fait n'est pas l'apparence d'un phénomène mystique, comme la stigmatisation, là, dont je vous ai déjà parlé, là, les traces des plaies du Christ en croix, comme on l'a trouvé chez Saint François, chez le Padre Pio, par exemple. La stigmatisation, ça apparaît toujours avec les mêmes caractéristiques, les blessures aux pieds, aux mains et aux côtés. Alors, lui, sa maladie, c'est rebelle à toutes les médecines. Il n'y a pas d'infection. Ça saigne périodiquement. Chez le frère Thomas, nous trouvons d'ailleurs la raison ultime de tous ces signes dans son amour pour le Christ et le Christ crucifié. Et la pratique des vertus à un degré héroïque. Frère Thomas va vivre 34 années de miracles pour faire de sa vie un miracle, un immense miracle. C'est une démonstration, peut-on dire, du pouvoir de Dieu. Un exemple, c'est ça qui est important, de la capacité humaine de souffrir quand le souffrant est uni très intimement au Christ. C'est une leçon pour le reste des hommes. On le trouve, je le répète, chez Marthe Robin, Padre Pio. En apparence, frère Thomas reprend vite ses forces, mais peu de jours après, il retombe, et on prendra d'innombrables moyens pour qu'il retrouve la santé. Les hémorragies ont recommencé, ainsi que la fièvre très haute. Alors, il y a des soins, des attentions, des remèdes. On choisit l'air de la campagne. Tout est insuffisant. La dernière fois qu'il prend la route, il arrive à une auberge. Pour se rendre à Almodóvar del Pinar, un village de la province de Cuenca. Dans la nuit, frère Thomas est terrassé par une fièvre si violente qu'il lui semble impossible de poursuivre le voyage. Alors, Avec le jour, il s'y sentit mieux, il se lève et sans pouvoir marcher presque, il se traîne jusqu'à un ermitage de la Vierge qui se trouve dans les environs, il y en a beaucoup en Espagne. Il passe tout le vendredi saint sans manger et sans boire et sans bouger devant une image de la Vierge. Et au lever du soleil, il remarque que la statue de la Mère de Dieu s'illumine ou s'anime comme celle qu'il y avait à côté de Thérèse Martin, enfant avant qu'elle devienne carmélite et sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la Vierge du Sourire. La Vierge de cette image lui dit amoureusement, « Thomas, mon fils, poursuis ton voyage et tu seras ordonné prêtre. » Alors il arrive le vendredi à Cuenca dans la soirée. Le frère Thomas est ordonné prêtre. Donc le 21 avril de 1609, semble-t-il, on n'est pas sûr, il y a des contradictions sur la date. De retour au couvent de la Solane, le frère Thomas se prépare durant 10 jours à célébrer sa première messe. Peu de temps après, son état de santé empire et rien ni personne ne peut arrêter la mystérieuse maladie. À 26 ans, Thomas de la Vierge paraît déjà vieux. Il était de haute stature. Maintenant, il est très maigre. La taille physique minée dans son lit, dit alors, pour laisser seulement s'exprimer, on peut dire, sa dimension spirituelle. Comme Marthe Robin. Pendant 3 ans approximativement, il est resté au couvent de Madrid. Il va derrière les religieux comme un blessé. Il traîne son corps le long des corridors, de sa cellule au cœur de l'église ou au réfectoire. Il repose la fatigue de son agonie contre les murs de temps en temps parce qu'il est en agonie. On dirait. Appuyé sur un bâton, il s'accroche aux rampes des escaliers. En octobre 1613, c'est impossible. Le frère Thomas ne peut plus faire un pas. Il perd l'équilibre, s'est écroulé une nuit sur le grabat. Et le matin suivant, il n'a pas pu se relever. Et désormais, de lui-même, il ne pourra plus se lever. Il va attendre la mort chaque jour, chaque heure. Elle va le surprendre 34 ans après, dans la même position. Le père Thomas va passer, oui, 34 ans au lit. Il va souffrir 34 ans sans arrêt. Il surprendra le monde par sa patience pendant 34 ans. On peut dire que la chambre du père Thomas est toute petite. Elle a 11 pieds carrés. 11 pieds sur 11 pieds, quoi. Une petite fenêtre ouverte, plus près du toit que du sol. Il regarde le soleil quand il se lève. Mais il en vient à ne même plus regarder. Il est collé au grabat. Il y a une petite table aussi pour déposer les médicaments, les instruments du chirurgien qui vient le soigner de temps en temps, on essaie des choses. Facilement, ce pauvre grabataire peut voir un Christ en la croix et une image de la Vierge Marie qu'on a mis dans sa chambre. Il n'y a rien d'autre. Le bois de son lit constitue au fond sa croix. Il est comme Job sur son fumier, vous connaissez l'histoire. J'en ai déjà parlé de Job. Il sera cloué durant donc 34 ans, 34 très longues années. Alors, celui qui entre à n'importe quelle heure dans la petite chambre du frère Thomas de la Vierge, prêtre, va trouver le patient qui dort peu. Il est toujours uni à Dieu. Il n'est pas étendu, mais comme incorporé, on pourrait dire, à son lit. Il s'appuie sur quelques oreillers, il paraît même assis des fois. Il est habillé, croyez-le pas, du saint habit, c'est-à-dire cette grande robe blanche avec un scapulaire blanc, avec une belle croix bleue et rouge sur le scapulaire. C'est magnifique, ce costume des trinitaires. Puis il porte la chape et le capuchon noir, comme les vrais trinitaires, même aujourd'hui. Jamais on ouvre la fenêtre et la porte est toujours fermée. Cependant, de son lit, il ouvre lui-même, il est tout près de la porte, à tous ceux qui demandent, en tirant une corde attachée au loquet. L'hiver, la température de la chambre est douce, mais l'été, le soleil et les cheminées la réchauffent jusqu'à l'insupportable. Parce qu'il faut cuire des aliments et les cheminées. Un jour doux, vers 9 heures du matin, le barbier entre dans la cellule pour raser le frère Thomas et dans le peu de temps qu'il y a passé, il a senti une telle chaleur que les religieux ont dû avoir soin de lui tant il était suffoqué. L'odeur n'a jamais ennuyé personne, c'est curieux, hein? C'est une chose reconnue, ça, par de très, très, très nombreux témoins, et que c'est toujours dit que la cellule du frère Thomas dégageait un parfum exquis, comparable à nul parfum connu. Quand ce parfum imprégnait le couvent, on savait que la porte du père Thomas était ouverte. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Oh, des gens qui croiront rien de tout ce que je raconte, ça ne me dérange absolument pas. J'ai plutôt confiance dans la véracité de ces faits, car j'ai été témoin de choses similaires. Sans aucune interruption, la douleur passe sur son corps comme, on dirait un bourreau. Quand elle se fixe dans la tête, quand elle s'introduit dans les oreilles, quand elle lui perce les dents, quand la douleur se cloue dans la gorge, qu'elle perce de flèches sa poitrine, elle frappe ses épaules, quand elle touche ses côtes, quand elle mord son estomac, quand elle macère ses bras, ses jambes. Terrible. Pour comble, tout son corps entier se couvre de plaies et les médecins affirment que tout l'estomac est blessé. Il a la bouche et la gorge pleines d'ulcères. Même les lèvres. Et de la tête aux pieds, il n'a rien de sain. Il est comme Job. C'est comme un refrain martelant qui tourmente rien qu'à le rappeler aujourd'hui. 34 années, toute sa vie, sans trêve, sans repos. Les supérieurs ont tout essayé pour faire retrouver au frère Thomas la santé. Les meilleurs médecins d'Espagne, ceux du roi, ont épuisé leur science et leur habileté. Ils sont arrivés à rien. Ils ne comprenaient pas. Ils répétaient seulement, les médecins, « Cette maladie n'est pas naturelle. » Et le malade, lui, bien, il continue à être, on pourrait dire, au cœur de la douleur. Les soins qu'on administre aux patients sont évidemment, faut l'avouer, ceux de l'époque, au début du XVIIe siècle. Le Christ seul, hein, le Christ crucifié, est le principe, la raison et la fin de la souffrance du frère Thomas. Rien que de ressembler au Christ le remplit d'allégresse. Parfois, il apparaît que sa joie est constante, intense, perceptible et communicative. Et pour cette raison, il répond toujours à qui l'interroge sur son état de santé. Grâce à Dieu, je n'ai pas besoin de repos. Souffrir et être placé sur la croix avec notre Seigneur Jésus-Christ, c'est là toute ma consolation. Oui, la chair est faible, mais les désirs sont très vifs. Hein? Mais Dieu ne m'a pas donné tout ce que je désire. Ce que je désire, c'est de souffrir encore beaucoup plus pour son amour. Est-ce du masochisme? Non, non. C'est une forme d'amour qui nous semble un peu étrangère aujourd'hui. Dans le lit, pourtant, Marthe Robin est morte en 1980, dans le lit, il a toujours la même position, il ne peut pas en changer. Il ne veut pas en changer même. Même si cela lui apporterait un confort momentané, jamais il ne s'approche de la fenêtre pour contempler le ciel. Comme Bufinas, on pourrait dire, de sa passion, hein. Il ne veut pas non plus respirer l'air de la rue. Toute chose qu'il aurait pu utiliser ou contempler de la petite fenêtre de sa cellule. Mais seulement une fois, en 34 ans, il est sorti de sa chambre. Pourquoi? Parce qu'on l'a transféré dans une autre chambre un peu plus grande. Les supérieurs se sont rendus compte que ce serait mieux si, à 20 mètres plus loin, il serait mieux. Le frère Thomas, dans son lit, comme le Christ en croix, s'offre donc à Dieu, notre Père. Dans l'amour, en oblation pure, je dirais en oblation virginale, il est complètement vierge. Il n'a jamais péché contre la chair. On conserve peu de paroles de ce malade. Cependant, en regardant de plus près, on remarque qu'elles ont trait à la pureté et à la chasteté. C'est significatif, et il connaissait la valeur de ces vertus qu'on ne connaît plus aujourd'hui presque. Il les a cultivées en lui-même avec effort. Il en a encouragé la pratique, il en a vanté même la grandeur, et par son exemple et ses exhortations, il s'est fait l'apôtre de ce dont on ne parle presque plus, la grâce sanctifiante. Être en état de grâce, être en état d'union à Dieu. On ne communie pas n'importe comment. On se confesse avant, il me semble, si on n'est pas en état de grâce. Il parle de la pureté de la chair. Cette pureté que beaucoup vendent aujourd'hui, ou bien qu'ils achètent pour satisfaire des désirs les plus vils. Le père Thomas lui définit la chasteté, ce sont ses paroles, la reine des vertus, car elle est la victoire sur les tentations viles et la possession de tous les biens. Frère Thomas conclut avoir atteint une perfection angélique dans des vases si fragiles que sont nos corps de chair. C'est sans aucun doute un plus grand mérite que d'être des anges, puisque c'est dans la nature même de l'ange d'être pur, tandis que pour l'homme, cette pureté angélique est l'œuvre de la vertu et de la grâce. Alors celui qui le pense comme ça, et puis qui en est si convaincu, travaille évidemment en conséquence. Ça s'obtient pas comme ça. Même avant d'être trinitaire, on affirme que le frère Thomas de la Vierge n'a commis aucune faute, comme je vous ai dit, qui puisse tacher son corps et son âme. Et déjà malade, engourdi et presque paralysé, s'il avait besoin d'être soigné, bien les médecins et les infirmiers étaient frappés de sa pudeur. Il n'a jamais permis qu'on puisse deviner sous son habit la forme de son anatomie. Tout cela paraît exagéré pour aujourd'hui, c'est sûr. On est tellement habitué aux nudités, même à la télévision, sur les plages, et même en été à Montréal, la nudité, là, hein? Terrible. C'est une question de principe. De principe? Je crois que c'est une question de connaissance et d'ignorance. Et qui sait aussi, peut-être une question de perversion de certains critères de vie. Et le critère du frère Thomas de la Vierge, c'est un critère qui a fleuri dans une plante dans le jardin de l'Évangile, hein, au creux des paroles de Jésus, qui a été non seulement chaste, mais totalement pur. Et pour que sa ressemblance avec le Christ crucifié fût complète, eh bien les incompréhensions des hommes, les abandons de Dieu même, de façon sporadique, ne lui manque pas. Il y en a qui, à voir son visage placide et serein, et toujours de la même manière, son absence totale de plainte, croient que ses maladies ne sont seulement que des apparences et qu'il fait semblant. Ils se sont permis, il y a toujours des gens pour critiquer, se sont permis de dire que sa situation n'est pas si douloureuse qu'il le laisse penser. D'autres langues étranges encore. Comment ça se fait qu'il y ait du monde comme ça sur la terre? D'autres, peut-être, envie les attentions qu'on porte à un moribond, alors il critique celui qui se trouve derrière une porte fermée, ce pauvre homme. Et si quelqu'un se risque à ce sujet de manquer de charité envers ceux qui critiquent, le frère Thomas de la Vierge détourne la conversation en disant « Frère, abandonnons tout à Dieu qui le permet pour mon bien. Ne commettons pas ce pourquoi il nous reprenne. Car celui qui marche dans la vérité doit encore plus rendre grâce pour de telles choses que de montrer du mécontentement. » Le père Thomas, qui ne parlait pas facilement avec les hommes parce qu'il préférait parler avec Dieu que de parler de Dieu, disait-il, traverse à plusieurs reprises dans sa vie les tourments de l'absence de l'amour de Dieu. Ça nous arrive tous à divers degrés, mais lui, c'est beaucoup plus tragique parce qu'il a eu des expériences d'amour de Dieu extrêmement élevées. Et quand ça disparaît, ça doit être épouvantable. Dans ces occasions, il accepte la volonté divine, dans la souffrance. Et une douleur sans motif, semble-t-il. Ça semble même pour lui une souffrance inutile à certains moments, mais Dieu s'échappe de sa pensée et laisse sa foi, on dirait, sans objet. Hein. Il croit, mais on dirait qu'il ne croit plus, qu'il n'y a plus personne. C'est arrivé à Saint-Thérèse Enfant Jésus, à bien des saints. C'est comme si Dieu se sauvait de son cœur, le privant de sa douceur amoureuse. Il est totalement vide. Il est comme vidée. Les parois de sa pensée, si on peut dire les parois de son cœur, se contractent. C'est l'impression qu'il a, parce que Dieu est absent. Il ne sent rien. Il y a une froideur complète. C'est l'obscurité absolue. On pourrait dire que c'est l'insensibilité de l'âme, c'est le néant total. Le frère Thomas de la Vierge se voit suspendu au-dessus d'un abîme d'éternelle noirceur. Il sent seulement la pesanteur de son corps, la pesanteur des heures qui passent, la pesanteur de la vie. Et tant que dure l'épreuve, frère Thomas, qui sait ce qu'il a perdu, comme je vous ai dit, parce qu'il connaissait ce qu'il a possédé autrefois, sans que personne ne le sache, bien il se sait, au-dedans de lui-même, assoiffé de Dieu. Il mendie la foi, il est affamé d'amour. Il est devenu comme un aveugle inconsolable de la lumière véritable. Et il clame du fond de sa pauvreté absolue, lumière, foi, amour, eau vive de vie éternelle. Et la tempête passe et son visage est le même. Toujours le même. Les douleurs de son âme et de sa chair, il les a souffert seul. Il veut pas que personne ne s'en rende compte. Il n'a pour les autres que douceur dans ses paroles, même quand il sent que Dieu est absent. Douceur aussi dans son regard. Tout à coup, le retour de Dieu qui se fait est brusque, c'est soudain, c'est imprévu. Alors, le frère Thomas voit et aime et se réjouit tout à coup, et si puissamment, que l'abstraction des choses et des sens est totale. On dirait qu'il n'a plus conscience de ce qui se passe autour de lui. À cause de cela, il désire que sa porte soit toujours fermée, car il ne veut pas que les religieux le voient en extase. Le frère Thomas de la Vierge, trinitaire, a été un homme heureux. Vous direz peut-être que c'est impossible et que toute cette histoire dépasse l'entendement. Eh bien, en dépit des 34 années sans quitter son lit, à cause de douleurs continuelles et très intenses, à cause de ces abandons divins que je viens de vous décrire, d'incompréhension de ses confrères ou d'autres personnes qui ont des caractères difficiles. Il est un homme heureux. Oui, il est un homme heureux. La santé est certainement fondamentale pour la vie humaine. Mais quand on la sacrifie pour un idéal, pour une cause noble, mieux si c'est pour un motif surnaturel, eh bien, la tranquillité, puis la joie, la félicité du devoir accompli sont à la mesure de ce sacrifice, comme on l'a vu chez Marthe Robin. Il souffre, oui. Il n'a pas perdu sa sensibilité, mais cependant, tout est enduré pour devenir, dans le creuset, on pourrait dire, de l'amertume, de plus en plus semblable au Christ souffrant, son idéal, son but, sa félicité. Et ceux qui l'ont connu ont affirmé, oui, et parmi eux, des cardinaux, des évêques, des religieux d'ordre divers, là, que Dieu a permis qu'il soit frappé toutes ces années, le père Thomas, bien qu'il soit frappé comme ça de toutes les maladies, pour que sa patience sans limite soit une voie de protestation contre, et je lis le texte de l'époque, les efféminations qui, après les grandeurs passées, ont été introduites en grande partie dans la noblesse espagnole. Les efféminations. Que dire de notre fin de millénaire? Avec des choses qui sont invraisemblables, comme les parades plus ou moins intelligentes de ceux qui sont gays. C'est pénible de voir ça. Tant de gens sympathiques parmi eux, mais comment peuvent-ils se conduire comme ça? Et en notre temps de sensualisme qui explose, la voix du frère Thomas de la Vierge continue de vibrer ici et là. Évidemment qu'elle vibre beaucoup plus à Madrid, où il est très connu aujourd'hui. Si nous avons connu l'homme maintenant, dans toute son humiliation, bon, il était faible de constitution, réduit à rien, mais il avait manifestait toujours un effort suprême de purification, de sainteté obtenue à force de sacrifice, eh bien, il a voulu être comme l'instrument de purification dans les mains de Dieu. Et tout ça, ça demeure pour nous évidemment un mystère. Pourquoi tant de souffrances? Difficile à comprendre. Toutes les manifestations d'ordre surnaturel données à quelques privilégiés comme dons qui viennent de Dieu, qui est tout-puissant, mais tout aimant, et peut-être que Dieu est faible devant tant de souffrances, et que c'est son amour qui est puissant. C'est très complexe, et les théologiens aujourd'hui ont beaucoup tendance à mieux comprendre ces choses. Je crois qu'on approche de la solution un peu de ce mystère de la souffrance. Nous les rencontrons donc, ces manifestations étranges, réunies dans le vénérable Thomas de la Vierge. Il semble que dans ce siècle du 17e siècle, là où il a vécu, Dieu a voulu manifester ses merveilles à travers l'homme le plus inutile, un homme inutilisable humainement parlant, et à la fois le plus saint. Dans les circonstances si difficiles qu'il a eues pour se sanctifier, hein? Je le répète, comme au 20e siècle, Marthe Robin. Je le dis parce qu'il y a des gens qui s'intonisent un peu plus tard. Les sceptiques, ceux qui détiennent toujours des explications naturelles, même en confondant les mystères, par des faits palpables de caractère naturel ou surnaturel, ne pourront croire, ou pourront interpréter à leur fantaisie, là, les phénomènes qui se sont produits de manière habituelle chez le frère Thomas de la Vierge. Cependant, ce qu'ils ne pourront jamais nier, ces gens-là, c'est l'existence de tels charismes. En 1617, le vénérable Thomas de la Vierge apparaît comme un privilégié. Il n'y a pas de secret pour lui. Ni au ciel, ni sur la terre, il pénètre les âmes. Comme le curé d'Ars, il traverse le temps. Il voit l'avenir et le passé comme le présent. On se le dit, il est doué de pouvoir surhumain. Ses paroles, c'est extraordinaire. Les choses ordinaires quotidiennes font surgir des miracles. Son corps possède des dons de bienheureux. Hein. Il y a les transfigurations, des arômes étranges, j'en ai parlé, des parfums, jamais perçus auparavant. Des bilocations même, comme le père Pio, etc. Le Seigneur a visité son peuple, il veut faire briller la sainteté de son serviteur, en somme. Il va attirer vers lui les âmes, le Seigneur, par des chemins extraordinaires, par l'intermédiaire du frère Thomas de la Vierge. Sa cellule, donc, devient un chemin de pèlerinage et son nom est connu dans le monde. Sans savoir comment ni pourquoi, les gens pauvres et riches, le tout Madrid, comme on dit, le tout Montréal, commencent à commenter la mystérieuse infirmité puis les prodiges qui se réalisent par ce trinitaire extraordinaire que personne ne connaît de vue au début. Dans les palais comme dans les maisons de prostitution, sur les places comme dans les rues, les seules conversations tournent presque seulement autour du dernier miracle opéré par le saint, comme on commence à l'appeler d'ailleurs. Et tous veulent le connaître. Il y en a beaucoup qui voudraient lui raconter leurs problèmes. Alors commence un défilé de 30 ans sans interruption dans cette cellule du frère Thomas de la Vierge. En sortant de là, les gens disent que le frère Thomas sait tout, qu'il possède la science et la sagesse, qu'il est un saint. Et sa renommée s'étend à toute l'Espagne, à travers le courrier qui part de la capitale Madrid pour l'Italie, pour l'Allemagne, les Pays-Bas, la Hollande, l'Amérique, sont portées des nouvelles sur le thaumaturge trinitaire. Tout le monde s'intéresse à lui. 30 ans durant, le frère Thomas sera la lumière de l'Espagne. 3 papes ont montré une dévotion particulière pour ce vénérable. Urbain VIII ordonne aux nonces en Espagne, le cardinal Facchinetti, de ne traiter ou résoudre quelque affaire d'importance sans avoir consulté d'abord le saint trinitaire et ensuite de suivre son conseil. Si grand était le sentiment que ce pape avait de la vertu du vénérable. Oui, ce pape, de manière constante, lui a manifesté beaucoup d'amour et fréquemment il lui envoyait des objets pieux. Un autre pape, Innocent X, alors qu'il était nonce en Espagne, fréquente la cellule du vénérable pour admirer sa vertu. Il le consulte comme un oracle de sagesse et de science divine. Il y a aussi le cardinal Rospilosi, devenu pape lui aussi, sous le nom de Clément IX. Tombe à genoux devant le lit la première fois qu'il entre dans la cellule du frère Thomas et demeure ainsi tout le temps qu'il est là. L'humble frère Thomas a beau insister, il ne peut pas le convaincre à se relever. Les cardinaux Monti, Borbideo, Pimentel, et Sandoval aussi, plusieurs archevêques, des évêques et des religieux de tous ordres, visitent ce trinitaire héroïque pour acquérir un peu de sa vertu et admirer sa sainteté. Le roi Philippe III et son épouse Marguerite lui ont montré des marques d'estime particulières, mais ce n'est rien à côté de la vénération qu'ont eu Philippe IV et Isabelle de Bourbon, la reine. Philippe IV l'a choisi comme conseiller imaginé, et Dame Isabelle comme directeur spirituel. Et très, très souvent, les pages, vous savez ce que c'est, les pages, hein? Les envoyés, là, comme des anges, on pourrait dire, les pages font le chemin entre le palais et la cellule du vénérable, qui est située à Madrid, avec des commissions en parole ou par écrit. Et quand arrive la lettre du saint, elles ne sont pas nombreuses, car il peut à peine dicter et encore moins écrire tant il est malade. Mais le roi les embrasse avec dévotion. Il se les met sur la tête et ensuite il les lit. C'est un geste pour dire, il faut que ça m'entre dans la tête et que je les comprenne comme il faut, ces lettres. La reine fait peindre même un tableau du frère Thomas de la Vierge qu'elle fait placer dans son cabinet privé pour recourir à lui à tout moment, comme s'il était déjà canonisé. Étrange et c'est merveilleux. Ce frère Thomas de la Vierge, trinitaire, prêtre, voyait dans les âmes, comme le curé d'Ars. On raconte que Don Alonso González Mexía y Alarcón était souvent invité par le père Thomas à se rendre à sa cellule, mais comme il connaissait le vénérable Thomas par réputation pour pouvoir lire dans les âmes, il n'y allait pas, il avait peur. Hein? Mais à la fin, par condescendance, cet homme très puissant accepte de rencontrer le frère Thomas, le trinitaire. Il entre dans la cellule pour faire une confession générale et avec grand étonnement, il entend le frère Thomas de la Vierge lui révéler tout ce qu'il avait fait les 20 dernières années qu'il ne s'était pas confessé. Hein? C'est extraordinaire. Comme le curé d'Ars. Il lisait dans la vie et révélait sa conscience au comte de Medellín, Don Pedro, au marquis de Villarreal, au comte de Parades, Don Vespasiano, au marquis de Montalban, à celui d'Etona, de Cessa, de Benavente, même aux inquisiteurs, aux évêques, aux théologiens, aux religieux, aux gens simples. En définitive, qui entrait dans la cellule du frère Thomas de la Vierge devait être en état de grâce, où il se confessait avant, où il se confessait après. Il les exhortait tous à la vertu, à la pratique de la charité, à fuir le péché, à chercher Dieu et à se laisser trouver par Dieu. Frère Thomas, de son lit de mort et de gloire à 60 ans, a sauvé plus d'âmes, ne fait plus de bien dans le monde par ses conseils, son exemple, ses prières et ses dons surnaturels que peut-être des centaines de religieux et de prêtres moins fervents. Il n'était un véritable apôtre dans tous les sens du mot et de la réalité. Juan Jerónimo de Montalvo a déclaré sous serment que son père, selon le témoignage des médecins, était mort. Ils ont commencé à faire le nécessaire pour l'ensevelissement et pendant ce temps, le père trinitaire Juan Evangelista arrive et demande des nouvelles du malade, alors on l'informe qu'il est mort. Troublé, ce religieux dit, peu avant le repas, le frère Thomas de la Vierge m'a convoqué, m'a donné ce scapulaire de la Sainte Trinité et m'a prié d'aller rapidement le passer au cou du malade. On lui dit, c'est inutile, il est déjà mort. Devant l'insistance du père Evangelista, il découvre le corps, et c'était vraiment un cadavre. Alors le Trinitaire pour accomplir quand même le désir du frère Thomas de la Vierge met le scapulaire et au même moment le mort recouvre la vie. Miracle, miracle, crie tout le monde, miracle, répètent les médecins et on entend dans tout Madrid miracle du frère Thomas de la Vierge. On est finalement rendu au mois d'octobre 1647. Le père Thomas de la Vierge est plus tendu, il est plus maigre, il est presque paralysé par manque de sang, par manque d'air. La porte de sa cellule s'ouvre moins et il ne peut l'ouvrir d'ailleurs. Il ne donne plus de conseils parce qu'il ne peut plus parler. Il regarde seulement et ses yeux se sont agrandis. Il est plus serein que jamais, il a beaucoup de mystère dans son visage et il paraît sourire à quelqu'un d'invisible, on dirait. Sa cellule est un coin de l'autre monde. Oui, un coin de l'autre monde. Et le lundi 7 octobre 1647, passé 8 heures du matin, père Thomas, qui a 60 ans donc, se confesse pour la dernière fois, puis en terminant son acte d'humilité, il dit à son confesseur que le temps de sa vie achève. Alors il embrasse le crucifix. Les religieux s'unissent à lui dans la prière. Et au bout d'un quart d'heure, l'étreinte du Christ sur la croix, on pourrait dire l'étreinte des deux crucifiés, demeure pour toujours. Dans des liens éternels et après sa mort, il paraît dormir. La sérénité définitive est celle de son visage durant d'ailleurs toute sa vie, et la nouvelle de la mort du Saint Trinitaire remplit de douleur Madrid. Tout Madrid veut le voir et le prier. Alors le père supérieur consulte le père général, le père provincial et tous les religieux, et ils le portent dans l'église et ils organisent le défilé. Un défilé afin que tous puissent le contempler. Mais alors le nonce du pape, l'ambassadeur, futur pape Clément IX lui-même, conseille de placer le corps au centre de l'église sur une estrade pour que tous le voient sans le toucher. Et devant tant de démonstrations exagérées d'affection peut-être, et tant d'affluence, le père supérieur réalise qu'à ce rythme-là, on ne pourra contenter tout le monde et qu'on ne pourrait pas enterrer le père Thomas. Alors il décide de faire son masque en plâtre pour reproduire le plus fidèlement possible les traits du saint sur des images et les distribuer 3 jours sans arrêt, sans arrêt, avec une interruption de 3 heures seulement la nuit. Là, les madrilènes, les habitants de Madrid, viennent pleurer et se lamenter autour des restes mortels du saint. Dans Madrid, dans l'Espagne entière, on proclame les vertus de ce grand saint trinitaire, le vénérable Thomas de la Vierge. On affirme avec conviction que jamais n'avait existé un saint comme Thomas de la Vierge. La nouveauté dans les conversations est de raconter le dernier miracle que le vénérable a fait. Pour longtemps, il est au cœur de Madrid. Il a constitué la conscience et la dévotion d'un peuple. Il est la conscience nationale. Il a été l'orgueil et la victime de l'Espagne. Et au long des années, le frère Thomas de la Vierge continue d'être, si on peut dire, d'une certaine façon, l'accusation et le message. Il se présente à nous, quoi, chargé de solutions pour nos problèmes. C'est un homme venu d'un autre monde qui arrive à temps pour nous dire à chacun d'entre nous que nos valeurs humaines, revalorisées par les principes surnaturels, vont rendre meilleurs les hommes de notre monde pour en faire un monde selon les désirs de Jésus. Les merveilles ont été nombreuses au cours de la vie du vénérable Thomas de la Vierge. Après sa mort, ça a continué. C'est incroyable tout ce que l'on a écrit à ce sujet. On a des relations de 300 cas miraculeux réalisés par l'intercession du vénérable Thomas de la Vierge. Parmi les témoins au procès de béatification du saint, il y en a qui ont déclaré des merveilles. Plus de 140 témoins, dont une centaine qui remplissent l'histoire du XVIIe siècle espagnol. Le corps du vénérable Thomas est resté à la même place jusqu'à la suppression des ordres religieux, où il a été transféré à la paroisse seigneuriale de San Sebastián jusqu'au 6 octobre 1864, et la nuit de ce jour, en secret, on l'a transporté au couvent des Moniales des Chaussées Trinitaires, car il y a des Moniales des Chaussées Trinitaires, il y a des Trinitaires de Valence, comme on les appelle, à Granby, j'en ai rencontré. C'est cette fantastique, des femmes merveilleuses, merveilleuses, des vraies sœurs, hein. Et nous y rencontrer lundi après-midi, lundi soir. Oh, c'est formidable. Puis, alors là, il était gardé avec affection jusqu'en 1968. Par décret de la Sacrée Constitution des Rites, les restes du vénérable Thomas sont actuellement à l'église, je vous le dis, des pères trinitaires de la ville de Val de Peñas, dans la province de Ciudad Real. Il répétait souvent ce père, ce bon prêtre, dans la souffrance, et être sur la croix avec le Christ est toute ma consolation. C'est toute une leçon pour nous qui fuyons la croix. Le Seigneur l'a comblé donc de grâces extraordinaires. Relation privilégiée avec Dieu, avec le pape, les rois, les riches, les pauvres. Une réputation de sainteté qui s'est étendue à toute l'Europe. On peut dire, ô Jésus, au jardin des Oliviers, tu répétais dans l'humilité de la prière, Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Pour te ressembler, Seigneur, ton disciple Thomas de la Vierge répétait tes paroles. Il acceptait avec toute son âme la maladie si longue et si pénible et en vertu de ses mérites. Accorde-nous ce que nous te demandons. Amen.